future
of your very soul, holding on to joy. Keep holding on to joy. Don't lose track of your very soul. Holding on to joy.
Tous faites un maximum de bruit pour les musiciens, s'il vous plaît. Les chanteurs, les musiciens, des bruits, Vendôme.
C'est adopter les mulins reptiles.
Je surveille le chaboté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement, elle me dit qu'elle convoite les mules en serpent. Elle me confie son pied nu comme une sœur. Il est fin, petit menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Jamais eu au chaboté cette démangeaison. Cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée sotte, l'idée saugrenue, l'idée de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit. Me laissant désappointer, la mule à la main, elle s'enfuit du chaboté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Tout le parfum que conserve la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur. Me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule. Et même la chair de dindon quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle à mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chaboté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Vous écoutez Principe Actif, à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures!
Et à Madrid, merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Martin Guez, et à la une, ce saut de puce du pape Léon XIV qui veut dire beaucoup pour l'Espagne.
Pas de long courrier cette fois-ci pour le souverain pontife qui était en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale il y a quelques semaines. Cette fois-ci, direction l'Espagne, une première depuis 15 ans pour un pape, une visite d'une semaine qui devrait attirer les foules. Nouvelle nuit de frappe au Moyen-Orient, la guerre continue et elle continue de perturber l'économie mondiale avec des conséquences dramatiques pour l'alimentation au Sri Lanka, en Afghanistan et en Somalie. Nous entendrons ensuite des Mozambicains qui ont fui l'Afrique du Sud et les violences xénophobes du pays. ne seront aussi en France. Pitex 7 n'est pas le bienvenu aux célébrations de débarquement en Normandie. Le chef du Pentagone voit un collectif citoyen de Langrune-sur-Mer lui barrer la route. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la finale femme de Roland-Garros. Le public français qui a succombé à la Khwalinska Mania, la polonaise Maya Khwalinska. Énorme sensation du tournoi. Elle affrontera la russe Mira Andreeva pour le titre tout à l'heure.
Et donc, après sa tournée africaine, le pape Léon XIV effectue son premier déplacement européen.
Le souverain pontife qui arrive aujourd'hui en Espagne, c'est la première fois qu'un pape se rend dans le pays depuis 2011. À l'époque, c'était la venue de Benoît XVI. Une visite de 7 jours qui portera essentiellement sur les questions migratoires et les questions sociales. Avec en point d'orgue une rencontre avec le premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Un voyage en 3 étapes qui le mènera en Catalogne et dans l'archipel des Canaries, mais qui commence tout à l'heure à Madrid, où l'on retrouve notre correspondant François Musso.
Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable. Les Espagnols aiment la fête, les cérémonies, et ils seront très nombreux dans le centre-ville. On sait ici que la relation avec le pape François et la hiérarchie catholique espagnole n'était pas très bonne, et on se réjouit de la visite de Léon XIV, à l'instar de César, un patron de restaurant dans le centre.
J'aime l'idée que vienne un pape de temps en temps. Il est une représentation de l'Église dans le monde, et cela fait du bien au pays tout entier. C'est une source de joie.
Es una alegría para todo el mundo.
Mais tout le monde n'est pas forcément heureux. La visite papale va supposer un énorme dispositif policier de surveillance, des embouteillages, l'impossibilité de circuler normalement, des tracas donc pendant plusieurs jours. Pilar, retraitée, vient d'une famille traditionnaliste, mais elle n'est pas croyante et elle estime comme beaucoup que cette visite est une nuisance.
Moi, cela me dérange plutôt. J'habite concrètement dans la partie centrale de Madrid. Et dimanche, c'est précisément quand il dit la messe Place Cibeles. Et nous avons un repas de famille.
Ce qui est certain, c'est que les médias sont tous au rendez-vous. Le centre-ville de Madrid n'est pas très grand et on sait déjà que voir et retransmettre cette visite va relever de l'exploit. François Musso, Madrid RFI.
Une messe qui pourrait attirer 1 million de personnes demain, Place Cibeles. Léon XIV qui commença sa visite par une cérémonie d'accueil au Palais Royal de Madrid tout à l'heure en présence du roi Felipe VI, avant une visite dans un centre social madrilène et une veillée de prière près du stade Santiago Bernabéu où plus de 400 000 personnes sont attendues.
Et à Madrid où il est 9h03. Au Moyen-Orient, les échanges de tirs continuent dans les pays du Golfe.
Une guerre de faible intensité qui s'installe entre l'Iran et ses voisins. L'armée américaine annonce avoir bombardé des installations de radars en Iran et ce après avoir abattu 4 drones iraniens. Alerte aérienne aussi au Koweït et au Bahreïn. Des explosions ont notamment été rapportées près des aéroports des deux pays. Les gardiens de la révolution ont annoncé avoir frappé des bases ennemies. Une guerre qui continue d'avoir des répercussions dans le monde entier, jusqu'en Somalie, en Afghanistan et au Sri Lanka, 3 pays pour lesquels le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Les prix des denrées alimentaires s'envolent et les populations les plus vulnérables sont en première ligne, estime Jean-Martin Bauer, directeur du service d'analyse et de sécurité alimentaire et de nutrition au PAM.
La vie chère revient. On fait face à un retour d'une situation d'augmentation des prix, notamment des prix alimentaires dans de nombreux pays du monde. Et nous avons la preuve que ce qui se passe au Moyen-Orient avec la fermeture du détroit d'Hormuz a un impact même dans des pays très éloignés de cette zone du monde. On a vu en Somalie une augmentation de 2,5 millions dans le nombre de personnes qui ne sont pas en mesure de se procurer une alimentation. On voit une augmentation de 2,3 millions de personnes en Afghanistan en insécurité alimentaire aiguë. Il y a au Sri Lanka une estimation que 1,3 million de personnes dans le pays ne peuvent pas se payer une alimentation correcte. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'augmentation des prix de l'énergie au niveau international s'est transmise à ces marchés et affecte les personnes les plus pauvres en priorité.
La guerre toujours au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui appelle le président libanais Joseph Aoun à sauver son pays contre son vrai ennemi, à savoir Israël, selon Téhéran. Cela fait suite aux déclarations hier du chef d'État, Joseph Aoun, qui avait appelé l'Iran à ne plus intervenir dans les affaires de son pays. Et à l'instant, l'armée libanaise annonça la mort de plusieurs militaires dans une frappe israélienne au Liban. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
Après le Ghana, le Nigeria s'apprête à rapatrier ses ressortissants vivant en Afrique du Sud.
Abuja, qui va rapatrier plus de 1000 d'entre eux en raison du contexte de violence xénophobe qui sévit dans le pays. Violence qui ont conduit près de 600 Mozambicains à rentrer chez eux. Ils ont rejoint le Mozambique via le poste frontière de Ressano Garcia dans la province de Maputo. Tous témoignent de violences physiques ou encore d'incendies de leur maison en Afrique du Sud, où ils sont plus de 300 000 à résider. Clotilde Hazard, en coopération avec la rédaction lusophone de RFI, a pu entrer en contact avec ces Mozambicains de retour d'Afrique du Sud.
Oui,
Ils avaient fait de l'Afrique du Sud leur nouvelle patrie. Certains y résident depuis des décennies, d'autres y sont nés. Aujourd'hui, ils sont forcés de fuir face aux violences xénophobes. Les immigrés sans papier ne sont pas les seuls concernés, souligne Silva Valoy, rentré au Mozambique avec un simple sac à dos.
Ils disent qu'ils sont contre les immigrés illégaux, mais j'ai un passeport valide ici avec moi.
D'autres décrivent la peur des derniers jours et la violence des manifestants anti-immigration qui les ont forcés à rejoindre le Mozambique pour sauver leur vie.
Ils disent qu'ils ne veulent plus d'étrangers, qu'on leur prend leurs emplois, ce genre de choses. Quand ils trouvent quelqu'un qui est étranger, ils le tuent, ils brûlent sa maison, ils pillent. Donc nous revenons sans rien, sans papier, ni rien.
Les autorités mozambicaines assurent que tout est mis en œuvre pour accueillir ces ressortissants dans les meilleures conditions possibles. Mais l'opposant Augusto Pelembe, présent sur place, dénonce les raisons qui ont poussé ces hommes et ces femmes à considérer l'Afrique du Sud comme un Eldorado.
Que faisons-nous depuis l'indépendance pour que nos jeunes aient de meilleures opportunités économiques? S'il y avait des emplois pour les jeunes dans notre pays, aucun Mozambicain ne préférerait aller souffrir en Afrique du Sud.
Selon les autorités mozambicaines, au moins 9 personnes ont perdu la vie dans les violences xénophobes en Afrique du Sud.
Et les groupes de pression sud-africains ont eux donné aux étrangers africains jusqu'au 30 juin pour quitter le territoire sud-africain. Fin mai, le Ghana avait été le premier pays à affréter un vol de rapatriement pour 300 de ses citoyens.
RFI à Paris, 89 FM et en DAB+.
Et à Paris, il est 9h07, le gouvernement reconnaît une erreur dans l'affaire Liana.
Du nom de cette jeune fille de 11 ans, disparue depuis le 29 mai dernier, son corps a été retrouvé jeudi dans le département du Gers, dans le sud-ouest de la France. Le principal suspect avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol sur mineur. La première, en 2022, avait été classée sans suite. Un dysfonctionnement clair et inacceptable, selon le président français Emmanuel Macron. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, n'utilise pas d'autres mots sur la chaîne de télévision française TF1. Le garde des Sceaux a présenté hier soir ses excuses, Charles Turien Tomaca.
Face à l'émotion suscitée par l'affaire, Gérald Darmanin a reconnu de graves dysfonctionnements au sein de la chaîne judiciaire. Pour le garde des Sceaux, je cite, l'institution judiciaire n'a pas su protéger la petite fille.
J'en tirerai toutes les conséquences et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifié de voir de telles défaillances.
Le ministre de la Justice se dit furieux du traitement par la justice du suspect et évoque un immense échec.
Nous avons failli dans l'organisation concrète de suivi de plaintes nombreuses et notamment la dernière, celle qui a été déposée en août 2025.
Mais interrogé sur le refus d'Emmanuel Macron de considérer les manques de moyens de l'appareil judiciaire comme responsable des dysfonctionnements dans l'affaire Liana, le garde des Sceaux estime que l'argument n'est pas recevable et fustige plutôt les failles inacceptables.
Je pense que tout le monde a vu que j'essayais, sous l'impulsion du président de la République, de mettre davantage de fermeté dans la justice. C'est pas facile de gérer et de gouverner le ministère de la Justice. Les magistrats, ils ont un statut d'indépendance, il faut les respecter, c'est la démocratie. Mais j'essaie de faire comprendre que l'indépendance n'est pas l'irresponsabilité.
Les conclusions du rapport d'inspection commandé par le ministère de l'Intérieur sont attendues le 19 juin. Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé qu'il rendra publique l'inspection diligentée sur l'affaire.
Des organisations de magistrats ont répondu qu'aucune responsabilité ne pouvait être mentionnée à ce stade et ont rappelé dans un communiqué avoir attiré sans relâche l'attention des différents ministres de la Justice sur leurs difficultés dans ce type d'enquête. Le président français Emmanuel Macron a lui rejeté tout argument sur le manque de moyens de la justice. Une marche blanche en hommage à Liana est prévue ce dimanche en présence de ses parents dans le village de Florence. Toujours en France, c'était il y a tout juste 82 ans, le jour le plus long, Clotilde, celui des débarquements en Normandie. Plus de 130 000 hommes débarquaient sur les côtes françaises, c'était le 6 juin 1944, un tournant de la Seconde Guerre mondiale qui précipitera la défaite de l'Allemagne nazie. Un événement célébré tous les ans sur les plages normandes et cette année, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, figure sur la liste des invités, le chef du Pentagone, qui n'est pas vraiment le bienvenu. Une association citoyenne d'un petit village normand s'oppose vivement à la venue de cette figure de l'extrême droite américaine. Pete Hegseth, persona non grata à Langrune-sur-Mer, Nicolas Roca.
Cet individu porte des valeurs contraires à la démocratie, aux droits de l'homme et à la paix. Dans un communiqué publié en début de semaine, les membres de l'association Langrune en commun détaillent les raisons de leur opposition à la venue de Pete Hegseth.
Now je ne le répéterai pas. Ce que je vais dire, je vais te le dire en face. C'est qu'une vilaine fille casse. Au début, j'ai cru à une farce, une blague de mauvais goût, mais force est de constater que tout est fini. C'est qu'une vilaine fille. Alors, efface mon numéro de ton repère. Quoi, je ne veux plus t'entendre. Et je reste poli, moli, car je crois que c'est pas très joli, joli. Ce que tu m'as fait là, hein. On parle d'une fellation prodiguée dans les WC d'un bar où je t'ai laissé avec mes potes du lycée. Je suis profondément blessé. Tu m'éviterais la fessée, mais t'as plus l'âge et t'aimerais trop ça. Nous deux, ça allait bien. Demain, ça aurait fait 3 mois. Mais ça fait quand même 3 fois. T'es qu'une vilaine fille. Vilaine fille, t'es qu'une vilaine fille.
Voilà. Hein? C'est Fleur? Merde.
Indécise, tu m'as pris pour un imbécile. Indécis, tellement j'étais bien docile. Je rampais, je campais sous ta fenêtre, je chantais. Et je voyais ce type qui entrait tous les jours chez toi et qui me hantait. Je savais bien que tu mentais, qu'il te venait pas pour réparer ton antenne. Je m'entêtais pour t'offrir ce que tu m'entêtais. La meilleure pour me manipuler. Un sourire et je capitulais. Alors je fermais les yeux, je me leurrais. Franchement, je pensais devenir fou. J'attendais mon heure, je pleurais. Si seulement j'avais pu aussi devenir sourd. Car les cris que j'entendais si bien, ça venait pas d'une scène de film, non. Ni d'un match de tennis féminin. T'étais vraiment une vilaine fille. T'es qu'une vilaine fille. Vilaine fille, t'es qu'une vilaine fille. Vilaine fille, t'es qu'une vilaine fille. Vilaine fille, tu m'as laissé, tu m'as vexé, tu m'as blessé. Tu es qu'une vilaine fille. Tu m'as vexé, tu m'as blessé, tu n'es qu'une vilaine fille. Vilaine fille. Vilaine fille. Vilaine fille. Vilaine fille.